Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net. Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir on se retrouve pour la saison 5 et l'épisode 18 de Money Time avec autour de la table nos chroniqueurs pour commenter l'actualité sportive. Et je commence avec toi mon Charles, comment tu vas bien ?
Bah écoute, bonjour à tous déjà, et puis ça va très très bien, et ravi de vous retrouver pour débriefer de l'actualité riche en belles surprises.
Ouais, et on a aussi Jérém avec nous ce soir, salut mon pote.
Salut salut à tous, et je vous souhaite une bonne émission à toutes et à tous, et une bonne écoute sportive ce soir.
Et pour conclure nos présentations, à côté de moi c'est Jean-Marc, salut, comment tu vas bien mon Jean-Marc?
Ça va très bien et j'en profite pour saluer en même temps que tous les spectateurs évidemment, Mathieu et Vince avec qui j'ai passé un très bon week-end.
On embrasse les copains et puis j'oublie pas en cabine notre réal, c'est Maëlan.
Hey, salut à tous.
Alors de quoi parle-t-on ce soir? Eh bien on va commencer par le football, on revient sur la Ligue des Champions, le championnat, les championnats étrangers. Enfin, ça c'est notre pain quotidien. On enchaînera avec une page handball, bien sûr, pour s'intéresser des violets et des roses, nos clubs hommes et femmes de Nantes. Dans la foulée, on vous dira tout ce qui s'est passé sur les terrains de nos clubs nantais. Et pour terminer, notre page multizone avec la fin des JO, le top 14 du golf, du tennis, du vélo. Enfin voilà, Mélène, on est reparti pour un numéro de Money Time. Et on commence avec le Prune Football Club.
Le Prune Football Club, FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Alors le ballon rond, ben rétrospectivement. Ça avait démarré mercredi avec la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain recevait au Parc des Princes le Real Madrid pour ce qui est un classique de la compétition.
Ah bah c'est un des gros matchs de ces dernières années. Hein. C'est le Real Madrid. Hein. C'est très nombreuses fois vainqueur de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui sur les 2-3 dernières années est devenu un des Real cadors. Et ben on a pu assister à un match finalement. En demi-teinte avec finalement des Parisiens qui ont très outrageusement dominé cette rencontre face à des Madrilènes très très peu en jambes, très peu dans les duels. Enfin, ils étaient vraiment là pour défendre et très peu d'occasions finalement pour les Madrilènes.
Très peu d'occasions, un match qui se terminait vers le partage des points, mais il en a été autrement. Kylian Mbappé, encore une fois, décisif à la 95e.
Hein. Et sur un éclat de génie, un petit dribble en dehors de la surface qui est rentré tout seul et qui a mis à jour Courtois à terre et puis basta, final pour PSG. Mais,
Très mauvaise défense sur cette action. On voit finalement Lucas Vazquez qui arrive sur Mbappé, finalement Militao qui arrive mais directement sur lui au lieu de rester dans la surface tranquillement en attendant Mbappé, ce qui fait que il passe les deux, il frappe déjà, elle est légèrement à mon avis déviée et ça, c'est ce qu'il a fait passer entre les jambes de Courtois d'ailleurs.
Alors, tu dis très mauvaise défense, j'ai une vision un peu différente de toi. Très belle action emmenée par Neymar d'une talonnade et Mbappé qui a montré tout son talent.
Mbappé qui montre son talent grâce à ses erreurs défensives.
En coup de souris, qui était en angle fermé, qui arrive à passer entre deux joueurs comme ça, avec le bloc du goal au pied.
Évidemment, c'est pas Khalifa Koulibaly qui ferait ça, mais sans lui en retirer tout son talent qu'il a, évidemment. Mais c'est vraiment. Non, c'est une magnifique action de Solis de Mbappé qui vient délivrer un petit peu le Paris Saint-Germain, qui en aura forcément bien besoin. Et puis surtout, c'est une victoire qui était vraiment très importante, déjà en vue du match retour. et qui plus est dans un match où ils ont complètement dominé, et sortir un 0-0 avec le niveau de jeu du Real Madrid en face, ça aurait été un petit peu dur à avaler, je pense, du côté parisien.
Bon, alors on sait que l'avantage n'est pas si gros que ça, puisque le but à l'extérieur ne compte plus double à partir de cette année. Donc demain, enverrez les Parisiens en prolongation et non plus en quart de finale.
Voilà.
On met quand même une petite pièce sur Paris.
Oui, ouais, alors ça dépend. Ça dépendra si vu comment ils jouent actuellement, même si on a vu qu'on on parlera du Nantes PSG juste après, mais s'ils jouent le jeu qu'ils ont actuellement, je pense que ça passera, parce que je pense qu'ils ont des individualités supérieures actuellement au Real Madrid. Ils ont Donnarumma qui n'est pas Keylor Navas d'actuellement en plus. Ils ont, je pense, les armes nécessaires avec une victoire. Et puis on voit le Real Madrid, même s'ils ont bien performé ce week-end, est quand même plus en difficulté que ne l'est le PSG sur les dernières semaines.
Mais quand même, attention à l'expérience du Real Madrid en Coupe de...
Oui, non, bien sûr.
On est d'accord, mais il faudra...
Bébéou,
il faudra aussi que le Real montre totalement autre chose, et Benzema sera logiquement plus en forme, puisqu'il n'arrivera pas, il ne sortira pas juste de blessure.
Il y avait un autre match, un deuxième huitième, c'était Manchester City qui prend une grosse option sur
le tennis. Bah, t'appelles ça un match ?
Moi, on a failli assister à un match de tennis, mais non, c'est
5-0.
C'est 5-0 pour City au Sporting Portugal. On attendait un fameux match piège, les Sporting Portugal, qui est champion de Portugal, champion du Portugal en titre, n'ont finalement rien pu faire face à la démonstration citizen.
Ils n'ont pas acheté aussi leur titre.
Non,
on en est sûr.
Tu vas pas douter de tout. Les lions de
complètes
de José Alvalade, c'est pas des trucs.
Non, comme il y a des affaires au Portugal en ce moment.
Oui, c'est vrai. Avec le Benfica,
il y a du grand bruit.
Exactement.
Tu as raison.
Et surtout, ce match-là, la très très grande performance de Bernardo Silva, l'ancien monégasque,
et l'ancien Benfica,
qui a été au four au moulin vraiment partout et qui a une vision de jeu et un apport sur le jeu de City depuis le début de la saison qui est vraiment énorme.
Ça continue demain avec Lille qui affrontera Chelsea.
Exactement.
En espérant qu'ils ne prennent pas la même fessée que le Sporting face à City.
Non, parce que c'est pas City en face.
Et puis c'est tout pour nos clubs français. Donc on en reparle lundi prochain.
À Chelsea.
Dans les autres résultats finalement de cette semaine, finalement le bon match nul du Red Bull Salzbourg chez eux face au Bayern Munich. Alors, c'est quand même un partout, c'est quand même plutôt un très bon résultat.
Surprenant,
Bayern,
ouais.
Et le Bayern qui se fait sauver grâce au Français qui sait quand même.
La 90e, donc c'est pour dire le niveau actuel de Salzbourg, avec un très bon encore Adeyemi qu'on voit très bien performant et qui sont les tablettes notamment de Dortmund pour remplacer Haaland. L'autre match de la soirée du mercredi, c'était l'Inter Milan qui recevait Liverpool, et Liverpool a, on va dire, pas assuré leur qualification, mais ils ont pris une grosse option en ayant s'imposé 2-0 à San Siro avec des buts de Firmino et de Salah.
Plus qu'une belle option là.
Ah oui.
Et sous l'eau,
pour
aborder et le retour à Anfield, l'Inter, en gros, je pense pas qu'ils vont passer.
Surtout que l'Inter, qui en plus on dira leur résultat de ce week-end juste après, mais qui n'a encore pas du tout performé, donc ils sont plutôt dans une mauvaise place en ce moment.
Ligue Europa, les Français ne jouaient pas puisque c'était les barrages, mais par contre l'OM en Ligue Europa Conférence, barrage de Ligue Europa Conférence, s'impose à la maison face à Carabag.
Exactement, 3-1, une victoire, on va dire, facile face à un adversaire, disons que Kazakh, c'est assez facile d'aller... C'est un adversaire très prenable pour les Marseillais, surtout actuellement. Milik qui marque encore un doublé, un but de Payet. Kadi qui marque pour Karabag. Bon, pas grand chose à dire, à part que c'est une victoire, on va dire, logique au vu de la prestation des Marseillais, et que va falloir assurer là-bas, mais bon, ça va le faire. Surtout qu'en plus, maintenant, avec ses victoires et tout, la Ligue 1 est en tête de l'indice UEFA sur cette année pour l'instant, devant l'Angleterre. Donc c'est pour dire le niveau des clubs français actuellement. Tous pour l'instant qualifiés.
Pourvu que ça dure.
Exactement.
Ça. Allez, on enchaîne avec la Ligue 1 et un match qui nous passionnait au plus haut point. Les Nantais qui recevaient donc l'armada du Paris Saint-Germain, la Beaujoire.
Ah bon ?
C'était.
Et avec le trio de. Avec
samedi
trio
à 21h.
Ils étaient tous là. Et la première fois d'ailleurs que Neymar venait à Nantes.
Ouais. Première fois, exactement. Ça faisait.
Tous
les
trois titularisés
à
la pointe de l'attaque. Et pour le résultat qu'on connaît, donc les Nantais qui s'imposent 3-1.
Face au petit Pousset.
3-1, un début de match tonitruant pour Nantes, qui marque dès la 4e minute.
C'est ça, tonitruant, ils les ont bouffés d'entrée en contre-attaque. Moses Ibon Colomoni qui sont très complices sur ce front gauche de l'attaque et puis qui trompent parfaitement Navas en plus.
Et RKM qui marque son 10e but.
9e. Il me semble que c'est le 9e.
C'est le 10. Non, j'ai entendu le 10.
J'ai entendu 9.
Bon, on sait s'il reste, s'il part.
On sait qu'il part.
On sait qu'il part.
Et gratuitement en plus. Donc,
ouais, et après l'ouverture donc, du partant certain Randal Kolo Muani, on a eu droit à un but enchanteur d'un certain Quentin Merlin.
Exactement. Oh là là, Merlin chanteur, oh c'est beau. Oh,
elle est bonne la tête, mais bravo.
Il fallait la faire. Non, premier but en Ligue 1, franchement, une frappe qui nous extérieure, mais qui repique vers la lucarne, alors qu'il est finalement, il fait même pas une frappe enroulée, pourtant, il s'aurait pu plutôt être d'une certaine logique, mais finalement il envoie une sacoche du côté droit de la surface vers la lucarne droite de Navas, et puis Navas peut rien faire, les défenseurs parisiens sont en retard sur la frappe de Merlin.
Tout à fait.
C'est magnifique pour un premier but en Ligue 1, vous pouvez pas rêver mieux pour lui.
Ouais, 2-0, mais ce n'est pas fini, car les Nantais, avant la pause, vont en marquer quand même un troisième sur penalty.
Exactement, c'est un pénalty, on va dire, logique d'une certaine manière au vu de la règle actuelle. Avec le bras complètement décollé, il veut faire du volleyball, mais ça, il faut aller à la salle Arthur Dugast. Donc, c'est pas ici, à la Beaujoire. Donc, une tête de Castelletto qui vient mettre donc, sur le bras de Wijnaldum. Penalty de Blas en force au milieu. Navas bail surpris et ne peut pas l'arrêter. Et 3-0 à la mi-temps. C'est plus arrivé pour le PSG depuis Sochaux en 2012.
Voilà. Mais ce qui prouve par rapport au très beau match de Nantes et par rapport au PSG, c'est que, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois pendant l'émission, que le PSG, dès qu'on leur met dedans physiquement et nerveusement, le PSG n'y arrive plus et perd tous leurs moyens.
Nantes a été très solide sur les duels, ils ont vraiment été très impactants. Ils ont montré des qualités de jeu qu'on avait vues cette année quand même sur certains matchs où on les voyait très bien combinés. Et puis voilà, on a eu Palois décisif encore une fois qui fait un excellent match. Alban Lafont, qui est gratifié d'une note de 10 sur 10.
8 arrêts. Hein.
Première fois qu'un gardien de Ligue 1 est 10 sur 10 hein, sur les chaînes, dans le journal de l'équipe. Il a été 8 arrêts sur les 9 tirs cadrés du PSG. Enfin, c'est incroyable hein, ce qu'on a.
Première
qu'on a
fois, et puis troisième dans gardien. L'histoire du journal. Exactement. Troisième gardien, puisqu'avant lui, c'était Bruno Martini. Et je vous demande le nom de l'autre. C'est Weinfeld. Un Danois qui jouait à Aarhus. Il a joué contre Nantes en 97.
Ah bah encore une histoire de Nantes.
Okay. Ouais, donc en deuxième, Paris va revenir rapidement. Raté un pénalty par Neymar.
Non,
et
pas raté. Arrêté
par la fin.
Qui a très bien joué, qui s'est pas jeté jusqu'à la dernière seconde. Il a bien attendu. Et puis finalement, du coup, Neymar surpris, la place complètement, enfin une frappe toute molle, comme il a l'habitude de faire. Mais d'habitude, le gardien est déjà parti, donc il peut choisir le contre-pied. Là, c'est un super arrêt de la fin.
Ouais, ça m'a rappelé l'arrêt de Landreau sur Ronaldinho.
Nantes qui va tenir et empocher les 3 points. Exactement. Et cette victoire de prestige qui, au soir de la 23e journée, les placer à la 5e place de la Ligue 1.
À seulement un point, si je crois bien, ou 2 points de
Rennes et 4 points de la Ligue des Champions. C'est vraiment dire, hein, 38 impressionnant contre les 42 de Nice. Donc Nantes, tout le peuple nantais rêve de Ligue des Champions. Rassurez-moi.
On est à 7 points. On est à 7 points, donc on n'est pas toujours.
On va se calmer, effectivement.
Hein. Conférence et Ligue Europa, pourquoi pas. De là, aller chercher
points,
avec des
39 points à distribuer avant la fin du championnat. Ça va être très long, mais on est heureux d'être 6e ce soir.
Surtout que Nantes est pour l'instant plutôt en très bonne forme. Disons que c'est plutôt une équipe avec Strasbourg qui dernièrement marche très bien, hein, on va pas se cacher. Hein, hormis les accros, les défaites face à Strasbourg, Nice et le match nul face à Monaco, ils enchaînent depuis le 5 décembre que des victoires.
Oui, et puis on peut rajouter les 2 victoires en Coupe de France aussi.
Oui, hein. Non, mais c'est ça, c'est vraiment on est sur à peu près sur un ratio de 10 victoires pour 2 défaites, 1 nul. C'est excellent.
C'est ça.
Sixième, ouais, ça atteste le bon travail d'Antoine Kumbuaré. Bon, les voisins qu'ont-ils fait? Rennes qui avait besoin de se reprendre.
Les voisins se sont très bien repris avec une grosse avance contre 3, terminé par 4-1. Malgré ça, ils ont quand même eu un temps faible en fin de première mi-temps où ils ont encaissé le seul but sur le sortie cadré de 3.
Ike Ugbo, le deuxième Canadien à marquer en Ligue 1 après Jonathan David.
Mais Rennes aurait dû mener au moins 4-5-0 à la mi-temps sur le nombre d'actions qu'ils ont fait à la mi-temps, mais ils sont quand même bien repris en deuxième mi-temps. Donc grosse performance de Rennes qui se maintient 5e à 2 points de Strasbourg, qui se relance un petit peu en espérant que pour eux, ils ne soient pas à nouveau sur courant alternatif, enchaîner victoire, défaite ou
match nul. Ils sont très bons à domicile, mais malheureusement, c'est à l'extérieur, ils pêchent un petit peu. Ce qui leur fait à chaque fois fait un petit peu des allers-retours à l'avant,
et,
à l'arrière.
Et tout restera à prouver et à maintenir lors de la prochaine journée contre Montpellier.
Montpellier qui a réalisé un bon coup sur le terrain de Lorient avec une victoire 1-0 pour nos amis Merlus. Malheureusement, une défaite du coup avec un but de TJ Savanier, encore une fois, hein, terrible Savanier qui est excellent à Montpellier depuis qu'il est arrivé là-bas. C'est une victoire qui fait du bien aux Montpellierains, qui se relance un petit peu pour la course tout ce qui est Coupe d'Europe avec une 9e place à 37 points. Donc ils sont juste derrière nous. Donc c'est une belle victoire pour
tout est bien serré. Et puis s'il y avait un club qui en début de journée pensait à nouveau se relancer, c'était Bordeaux qui menait 1-0 face à Monaco, qui avait vu dès la première mi-temps Aurélien Tchouaméni partir sur un rouge. Pensait faire une bonne performance et c'était sur l'obligation des Monégasques qui ont marqué après l'heure de jeu et qui ont maintenu le match nul partout.
C'est vraiment dommage parce qu'on est sur un but un peu gag, hein, avec une frappe contrée par le latéral gauche bordelais, bon, au nom très imprononçable que je n'ai pas prononcé et tout, et ça rebondit sur Marcelo et qui du coup l'envoie dans son propre but. C'est un peu dommage parce qu'on a vu en plus des bordelais vraiment bien attaqués, qui étaient vraiment offensifs face à des monégasques qui avaient du mal finalement, et puis en seconde période, alors qu'ils sont en supériorité numérique, recule. Et puis quand ils se prennent un but, on va réattaquer et puis en fait on va pouvoir avoir des occasions. Mais les gars, au bout d'un moment, vous n'étiez pas resté, vous auriez pu mener 2-0, 2-3-0 et être tranquille.
Et le paradoxe de Bordeaux, c'est que Bordeaux est la 6e attaque de Ligue 1 et la dernière défense de Ligue 1.
Et ce soir, lanterne rouge pour tout.
C'est ça. À égalité avec Metz et Lorient et 3. C'est pour dire. C'est serré.
Et Saint-Étienne qui s'est extrait maintenant de la zone de relégation et même de la place de barragiste. 17e grâce, à un bon nul face à Strasbourg. L'équipe qui marche bien cette année.
Il revenait un petit peu, il revenait de loin parce que menait 2-1 quand même, surtout qu'ils avaient ouvert le score par bout de bouse. Diallo et Perrin, et Loïc Perrin, c'est l'ancien Stéphanois, c'est Lucas Perrin, l'ancien Marseillais, qui marque une superbe retournée bas du sol, qui pour mener 2-1, on connaît en plus les Strasbourgeois actuellement qui sont quand même 5e au classement et très performants. Et bah finalement, Wabi Kazri a pu égaliser, puis pas de but en deuxième période. Mais c'est un match nul qui du coup n'arrange pas les Strasbourgeois dans la quête des Coupes d'Europe, mais qui arrange un petit peu Saint-Etienne dans le fait de grappiller quelques points sur la zone de relégation. Mais bon, ils sont qu'à un point sur les 4 derniers. Donc
attention, puisque Saint-Etienne va recevoir Paris Saint-Germain. Hein, donc
un match de titans.
D'autres résultats, Angers qui n'avance plus.
Angers qui est vraiment a du mal en ce moment. Une défaite 1-0 en terre niçoise. Justin Kluivert, encore lui, qui nous avait illuminé face au PSG en Coupe de France, marque le seul but de la rencontre. Une Nice qui du coup se replace deuxième au classement dû à la défaite de Marseille, on va parler juste après, et du coup forcément pour les Angevins qui finissent, donc ils sont troisième, attention à pas trop perdre encore un peu parce que sinon derrière ça peut revenir avec Saint-Etienne à seulement 7 points et les autres à 8 points, donc il suffit de quelques matchs pour que ça se passe un petit peu mal pour les Angevins.
Et un championnat vraiment très serré du début à la fin.
Ouais. C'est ça en fait, il y a vraiment deux blocs. Il y a le bloc ceux qui jouent la Coupe d'Europe, on va dire de Lille 11e jusqu'à entre guillemets Marseille 46 points. Donc il n'y a que 10 points d'écart entre le 11e et le 2e. C'est pour dire, ça c'est beaucoup très serré. Il y a un second bloc, on va dire, de mi-tableau entre Brest, Angers, Reims et Clermont. Et puis il y a la zone un peu plus en danger avec Saint-Etienne, Troyes, Lorient, Metz et Bordeaux qui se jouent à un point. Donc on a vraiment trois blocs qui se forment, avec Paris qui est largement au-dessus. Donc ça va être une Ligue 1 très intéressante jusqu'à la fin de la saison où la dernière journée peut encore se jouer beaucoup de choses.
C'est ça.
Ouais, dernier résultat qu'on n'a pas évoqué, le nul de Brest à Reims, un partout, et donc Marseille qui s'incline face à Clermont. 2-0,
face à Clermont, c'est une bonne victoire ça pour Clermont dans l'objectif de rester à distance de la zone de relégation.
Absolument.
Les buts notamment de Mohamed Bayo, le Guinéen, magnifique but.
Et qui en est à son 10e but cette saison.
Exactement, proche des meilleurs buteurs de ce championnat. Jim Alevina qui est entré, l'international gabonais, qui vient passer devant Gerson pour mettre sa tête et player 2-0. Les Marseillais qui du coup ont un gros coup d'arrêt pour les Marseillais.
Énorme coup d'arrêt.
Ouais, sur l'agenda, donc le FC Nantes qui ira à Metz dimanche prochain 15h chez un mal classé pour espérer ramener les 3 points avant de recevoir Montpellier, un candidat direct pour les places européennes. Ça sera le 6, on y sera, je l'espère. On passe à l'étranger, les garçons.
Exactement. Bon, on va commencer par le gros championnat. Allez, en Angleterre. On va commencer par l'Angleterre.
L'Angleterre.
Et le mauvais résultat de ce week-end, c'est la défaite de Manchester City à domicile face à Tottenham. C'est un coup dur dans la marche en avant pour le titre. Ils voient du coup Liverpool revenir petit à petit sur eux. Hein. En cas de victoire de Liverpool sur leur match en retard, ils seront qu'à 3 points de City.
6 points.
Ils sont actuellement à 6 points, et si en cas de victoire sur le match en retard, ils reviennent à 3 points. Donc, c'est vraiment une défaite un petit peu coup dur avec Kulusevski, qui avait le joueur prêté par le Juventus suédois, qui arrive à ouvrir le score dès la 4e minute de jeu. Gundogan égalise. Harry Kane, prince, sœur Harry Kane, qui arrive à redonner l'avantage à Tottenham. Une main de Cristiano Romero en toute fin de match permet un pénalty de Riyad Mahrez d'égaliser, puis Harry Kane encore une fois à 95e sur une tête dans la foulée vient crucifier les Citizens qui étaient revenus. C'est un coup dur, ouais. Et puis Tottenham qui se relance du coup à la course à la 4e place.
Tout à fait. Et autre coup dur, c'est sur un match quand même bien équilibré, c'est West Ham qui pouvait à nouveau se maintenir dans le top 5 et qui a vu que Newcastle fait match nul sur leur terrain à partout, et Newcastle qui sort de la zone rouge. Et qui Newcastle, leur passe au maintien, se place comme il faut pour
Newcastle qui a encore fait un gros mercato d'hiver. Hein. Il y a beaucoup de noms qui sont
avec
arrivés.
Avec les princes émiratis, tout ça, et derrière, qui vient d'Arabie Saoudite, tout ça. Ils ont recruté entre Trippier qui s'est blessé, Chris Wood, on avait du Dan Burn, du Matt Target, tout ça. Donc c'est vraiment Bruno Guimaraes aussi de Lyon. Voilà. Donc Newcastle qui essaye qui a sorti l'échiquier pour s'en sortir.
Tout ça pour être 17e, comme tu dis. Il y a les d'autres résultats.
Chelsea qui s'impose sur le fil sur le terrain de Crystal Palace. Un but de Ziyech à la 89e qui leur permet de rester un petit peu devant United avec du coup un match en retard pour la 3e place, pour conserver cette 3e place. Southampton qui s'impose 2-0 sur le terrain d'Everton. Everton en grande difficulté cette saison. C'est très très compliqué pour eux.
Et autre équipe en difficulté qui a fait un très beau match ce week-end, c'est le match entre Leeds et United.
Et une équipe qui
menait 2-0 à la mi-temps s'est vu revenir en une minute, des buts de Rodrigo et de Rafinha.
L'ancien Rennais.
Et qui après se sont fait en fin de match par Fred et Langa qui ont vu revenir United au score fini par 4-2. Ça sent mauvais pour Bielsa et ses troupes, malgré le très beau jeu qu'ils ont.
Exactement.
Leeds est 15e, 23 points, très loin des ambitions de ce club.
Et sur les autres gros résultats, on a Liverpool qui s'impose 3-1 face à Norwich et Arsenal 2-1 face à Brentford. Arsenal qui reste dans la course à la 4e place, surtout avec ses 3 matchs en retard par rapport à United 4e. Liverpool qui se rapproche de City.
Et des news de la Liga avec les cadors, le Real face à l'Alavés qui s'impose tranquille 3-0.
Ben, le Real qui s'impose facile 3-0 après l'heure de jeu grâce à un but de Marco Asensio, suivi à 80 minutes de Vinicius et un petit but de Benzema sur penalty en fin de match pour clôturer la belle performance du Real, mais qui n'a pas été monstrueuse non plus.
Et ça va mieux pour le Barça.
Une magnifique victoire, 4-1 en terre valencianoise, avec notamment un doublé de Pierre.
Il a été validé après le match, le but de
Gonzalez.
Ah, de Pedri, qui a été validé pour Aubameyang.
Pour Aubameyang, voilà.
Donc, ok, donc c'est, excusez-moi, effectivement, c'est pour ça que j'avais vu un triplé, et là je voyais doublé, ça me paraissait bizarre.
Et avec Aubameyang, il y a le Barça qui trouve de la verticalité dans son jeu.
Exactement, c'est un joueur de vitesse, un joueur qui peut jouer sur le côté, dans l'axe, c'est un joueur qui permet de casser des lignes, et c'est un joueur qui va faire du bien, c'est ce qui manquait un petit peu au FC Barcelone, du coup une victoire 4-1, donc avec ce triplé, Aubameyang qui devient le premier joueur à marquer 4 triplés dans 4 championnats différents, Angleterre, France, Allemagne et Espagne. Et maintenant en Espagne, c'est vraiment un magnifique joueur, hein, ce joueur, hein, c'est incroyable. Et du coup, le Barcelone qui se reprend et qui du coup est actuellement 4e de Liga, à seul avec un match en retard, et qui donc peut revenir à un point du Betis.
L'Atlético aussi a fait le job.
C'est ça, l'Atlético.
3-0 à Osasuna.
un match qu'il fallait gagner, qu'ils ont gagné. Rien de, enfin, face à Osasuna, qui est quand même en première partie de tableau, hein, donc c'est pas à négliger. Félix qui marque à la troisième, Luis Suarez et Correa qui viennent conclure en deuxième période. L'Atlético qui du coup s'empare du coup à ce moment-là, qui reste du coup à égalité avec le FC Barcelone à la quatrième place. C'est serré en tout cas dans ce, à la, pour la course à la troisième place, pour la course à la Ligue des Champions, très très serré.
Ouais, le Betis qui lâche rien, encore une victoire de 1 ce week-end.
C'est ça.
C'est une victoire 2-1 sur le Anter, enfin chez eux, face à face
les
à
deux équipes de Séville. Hein, de toute façon, elles brillent cette année, actuellement classées 2 et 3. Allez, on termine par l'Allemagne.
Et l'Allemagne, évidemment, ça se joue avec les gros, bah, les cadors, les trois premiers, enfin les, non pas les trois premiers, mais les gros de ce championnat qui sont imposés. 4-1 pour le Bayern, 6-0 pour Dortmund et 6-1 pour Leipzig. Leipzig. Donc c'est pour dire le niveau des gros de ce championnat d'Allemagne. Donc à ne pas non plus oublier, c'est la victoire, la défaite de Leverkusen en terre Mayence. À Mayence. Donc c'est Mainz 0-5, c'est pour les Allemands.
Nullfünf.
Exactement. Comme Schalke 0-5, exactement,
Nullfier.
Patrick qui a marqué encore pour son 20e but de la saison, mais bon, ça n'a pas suffi. Leverkusen qui perd du terrain du coup sur Dortmund et qui voit revenir derrière Hoffenheim et Fribourg.
Tout à fait.
Ok, bon, bah on a été complet sur le foot, mais là, on passe au handball, c'est H-Time.
Money Time. Highlight. On discute, on échange et on analyse autour d'un invité ou d'un événement. Highlight. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on revient sur la semaine du H. Ça a commencé mardi, c'était de l'European League pour les violets et la réception du club finlandais de Cox, Jérémy.
Voilà.
Et la ville de Riemann.
Voilà, et match première mi-temps un petit peu compliqué pour le H qui avait du mal à s'adapter au niveau de leur adversaire du soir.
Ouais, on l'a dit, hein, on en a parlé avec les coachs, hein, voilà. Un adversaire assez atypique, hein, des joueurs pas professionnels. Hein.
Du tout, et qui sont terminés avec de très gros sauts, de très gros accrochages. Ils étaient à 12 joueurs, ils ont terminé plus qu'à 9 joueurs à la fin du match. Il n'y avait qu'un seul joueur qui tournait dans le remplaçant. C'était un petit match un peu déséquilibré qui, première mi-temps...
Ils n'avaient pas assez de fonds pour faire voyager tout leur staff. Hein,
tout à fait. Et du coup, première mi-temps qui se termine à 17-12 pour que la fin du match se fasse à plus 11. Ils terminent sur un 36-15 de la part de Nantes avec une belle performance du tout nouveau joueur de Nantes qui sort de son formation. Sébastien, c'est Vélo Notouez.
Un anglais,
et c'est le premier anglais à avoir marqué en France et en Coupe d'Europe de l'histoire.
C'est vrai, c'est pas banal. Dans ce match, on a vu Michael Robin quand même à 15 sur 40. Une belle semaine hein, pour le gardien du H. Valero Rivera toujours à son aise, hein, 5 sur 6 sur son aile. Bonne performance du pivot Marchand hein, à 100% et 5 sur 5. Également Théo Monard hein, qui a été à son avantage au poste de pivot avec 80% en zone mixte. Maëlan, on a retrouvé Valero Rivera.
Valero,
bonsoir. Bravo pour cette victoire. Une victoire attendue face à un adversaire aux moyens limités, mais l'essentiel ce soir, c'est les deux points.
Oui, bien sûr. On a fait le boulot. Même si des fois, on a eu beaucoup de pertes de balles, mais bon, il faut être exigeant. Et à la fin, on a gagné. Et c'est le plus important.
Ouais, on a vu beaucoup de rotations, des joueurs en manque de temps de jeu, un petit nouveau. Mais quel enseignement on tire de ce genre de rencontre ?
Bah, à continuer à travailler, à continuer à jouer ensemble, à continuer à progresser. Et pour nous, ça, c'est un match devant un public exceptionnel. Alors, il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Il faut être concentré, donner le maximum. Et voilà, c'est comme ça qu'on va aller en avant.
L'objectif, toujours la deuxième place, qui assurerait évidemment un tirage favorable au huitième.
Ah non, on va chercher la première place déjà.
Benfica a gagné ce soir à Lemgo, face à Lemgo.
D'accord, mais oui, on verra ça. Oui, on va essayer de gagner tous les matchs. Et d'abord, on doit penser au suivant, c'est les Russes. Et voilà, et on va aller pas à pas, mais en essayant de gagner tous les matchs.
L'ambition, c'est de la gagner quand même.
Bien sûr, bien sûr.
Merci Valero, on vous le souhaite, à bientôt.
Alors le score c'était 36-25.
36-25, ouais. Le H contre Cox. Et vendredi, le H était en déplacement en terre chambérienne. Belle réussite encore hein, pour les hommes d'Alberto Anterios avec cette victoire. 32-25, Rivera encore hein, en chaleur avec 11 buts. 7 sur 7 au jet de 7 mètres. Emeric Mine hein, qui revient dans le groupe performant aussi à 6 buts. Et puis Robin qui actuellement fait mieux que Emil Nielsen dans les cages. Hein. Très efficace, ouais. Le gardien
nantais. Ça se passe bien pour le H, ouais.
C'est qui doutait en début de saison de Michael Robin ici?
Bon, on demandait un
petit peu. C'était la façon dont il était recruté après avoir pris sa retraite. Du coup, au classement, Nantes est toujours deuxième, mais à égalité avec Aix.
Toujours Aix hein, qui vient imposé. Nous contrarier. Voilà.
Et Aix qui s'est imposé difficilement en terre nimoise 29-28. Hein, ça a été serré.
C'est jamais facile en terre nimoise.
Jamais.
Au programme, Nantes, c'est d'abord à Lemgo, c'est le 22.
C'est demain.
Et puis après, déplacement à Istres le 25.
Avant de recevoir Tchekov, donc le premier. Allez, on passe aux filles dans cette page handball. Là aussi, ça joue sur tous les fronts, en championnat et en Coupe d'Europe. On commence par le championnat.
Championnat, voilà. Ça va très bien, puisque c'était une victoire à Dijon, 28-29.
Voilà. Tout à fait. Et les Nantais se sont bien relancés en championnat. Et qui plus est, grâce avec la rétrogression de points de péage.
Moins 9, hein,
moins 9,
pour raison financière.
Les Neptunes se retrouvent quatrième juste derrière Brest, ce qui leur permet d'être très bien classé sur ce championnat et qui a joué les playoffs et joué la Coupe d'Europe pour l'année prochaine.
Ouais, c'était la double bonne nouvelle de la semaine, la victoire à Dijon et puis les moins 9 points de Bourg-de-Péage. Il restait à valider l'objectif européen.
La qualification, les difficultés financières, c'est beau ça.
Je ne me réjouis pas de la rétrogradation de Bourg-de-Péage.
Pas rétrogradation, 9 points de pénalité.
Enfin, les 9 points de voilà, sanctions, pardon. Ça.
On s'en réjouit pas.
Le
mais
péage a coûté cher.
Et ce week-end, donc, l'objectif, c'était s'imposer face à Lubin voilà. Lors du dernier match de groupe de la Ligue européenne.
Et pourtant, tout commençait bien avec la défaite.
La veille, la défaite de Bayamare, effectivement, sur son parquet face à Bitigheim. Les joueuses de Guillaume Sorina avaient leur destin en main, malheureusement, Jérémy.
Et je pense
du week-end.
Et je pense que le score de la veille a beaucoup trop influencé les joueuses et le coach.
On en a parlé aussi, effectivement.
Et du coup, elles ont fait un mauvais match.
Paralysées par l'enjeu.
Paralysées. Aucune mobilité en défense et en attaque. Trop prévisible en attaque. Et elles se sont fait surprendre. Ou alors plutôt, Lubin a été sous-estimé dans ses phases de poule. Car pour avoir vu les trois équipes, Lubin, c'était l'une qui jouait...
Oui, j'ai envie de te dire, Jean-Marc, toi qui les avais vus l'année dernière, Lubin, c'était...
C'était Lublin que j'avais vu l'année
pardon.
Dernière.
Non, okay. Mais Lubin a vraiment très bien joué et a mérité de gagner sa victoire face à Nantes.
Une équipe avec des petits gabarits, beaucoup de mouvements, très mobiles. Ouais, c'est ce qui nous a posé des problèmes.
Très tactique et qui jouait à fond leur carte de ça. Et surtout avec leur gardienne, 9 arrêts sur 13 en premier temps.
Incroyable. Énorme.
Malkiewicz,
ouais,
Monica.
Effectivement, en face, eh ben déjà, il manquait Orlan Alanda, donc
qui est blessé.
Numériquement, il nous manquait nos poids lourds. Karine Stromberg, très décevante.
Elle termine le match à seulement 1 sur 3.
Ouais.
Et la seule bonne nouvelle du match, c'est la belle performance en demi-temps de Clara Vaxès. Qui est joueuse de formation de Nantes et qui a fait un 4 sur 4
sur son aile, hein, repositionnée sur l'aile. Elle a été très efficace, mais ça n'a pas suffi malheureusement voilà. Aux filles de Guillaume Sorina.
Du coup, défaite, s'imposer. 28-27.
28-27, c'est Bayamare qui ira affronter Sola. Hein, Sola qui aurait pu revenir à Nantes dans ses valises sans Malinolta. Hein, l'ancienne nantaise joue actuellement à Siofoc. Et l'année prochaine sera à Toulon, on en a déjà parlé.
Exactement. Alors, au programme des quarts de finale, la seule équipe française, c'est Besançon, qui va jouer Bitigheim.
Très
chaud,
bien.
Chaud, chaud, chaud.
Oui, puisque les groupes A et B croisés, hein, et nous, on aurait dû jouer Sola, autre qualifié, donc je crois que ça sera...
Valcea, Herning, Icast, donc était au Final Four l'année dernière.
Viborg.
Et puis Viborg contre les Norvégiennes de Storhamar.
Voilà. Bon, bah, ça sera sans le champion en titre, les Neptunes de Nantes.
J'ai une question. Est-ce que c'est pas, finalement, par rapport à l'objectif des Nantaises, un mieux, comme ça, elles pourront se concentrer sur le championnat et la Coupe de France?
Tout à fait. Bah, c'est ce qu'on a échangé en conférence de presse à la fin, qu'ils avaient concentré sur ça et qu'ils allaient se remobiliser, se remettre un petit peu à niveau, parce que, voilà.
Bon, en tous les cas, une campagne assez décevante, hein, 6 matchs, 4 défaites.
Voilà. Ouais.
Au programme, du coup, après-demain, les Neptunes qui se reçoivent Plan de Cuc.
Le 26 sur l'agenda. Voilà, Maëlan, on en a terminé avec notre page handball. On va ouvrir la page score en stock, les résultats de nos clubs nantais, bien sûr.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va commencer avec du volley.
Ah, d'accord.
C'était le NRMV et c'était lundi, le premier match de la semaine pour eux. Tu y étais, Jean-Marc, face à Poitiers.
Exactement. Et puis Poitiers, dernier. Poitiers, équipe de Sergio Nodal, ancien capitaine nantais. Et ben Poitiers est venu écrabouiller le NRMV 3-7-0. Il n'y a pas eu match. C'est un peu frustrant. Mais le NRMB avait l'occasion de se rattraper dès jeudi avec la réception du leader Tours à la Trocardière.
Ouais, match de gala dans une ambiance survoltée, 3500 personnes.
3007 même, et un invité de marque, Ali Rebou, donc le responsable des sports de haut niveau à Nantes, puisque la réflexion est de plus en plus forte sur l'attribution des salles la saison prochaine. Mmh. Et autant te dire qu'ils ont mis toutes leurs cartes en jeu, les boys, pour essayer de récupérer cette salle et de se retrouver avec les basketteurs du NBH. Nantes était très motivé. Bon, premier set perdu 25-22. Les boys qui vont s'énerver avec le public, s'ambiancer, remportent le deuxième 25-23. Ça sera très serré dans le troisième, que Tours remporte 25-23. Et puis quatrième, il manque un tout petit peu d'essence. Les Nantais s'inclinent 25-19, donc en 3-7. Mais plutôt une belle prestation et des choses intéressantes qu'on demande à revoir à la Trocardière. Du coup, pour le classement, bon, c'est un peu complexe, hein, puisque Nantes, avec 24 points, un peu largué, 24 points en 21 matchs, ils sont 11e, il faudrait aller chercher Paris, qui est avec 27 points, 3 points devant. Prochain match, donc, au programme, ça sera à Montpellier, le 26.
Et les vacances risquent d'arriver vite pour les boys.
C'est ça.
Allez, les filles.
Les filles, elles, avaient un énorme match puisqu'elles se déplaçaient au Canet pour jouer le Voléro. Les féminines de Nantes qui remportent le premier set, 30-28, le deuxième 25-22 et puis plus d'essence. Et c'est le Canet qui s'impose à domicile, 3-2. Au classement, Nantes est toujours troisième, hein, pas de souci, derrière le Canet et Mulhouse. Et se déplace à Évreux le 26.
Ouais, on enchaîne et on va parler de hockey, on va parler des Corsaires.
Exactement, les Corsaires, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, et ils avaient été gagnés à l'arraché face à Strasbourg, et puis une victoire aussi à l'arraché à Cholet. Les Corsaires qui attaquaient dès mardi, et ont appuyé vraiment sur l'accélérateur, et s'imposent 6-2 face au Bison de Neuilly. Un premier tiers que Nantes emporte grâce à Mathieu André avec un but à 3e minute. Et deuxième tiers, les Nantais écrasent totalement Neuilly avec des buts de Paul Schmitt, O'Shaughnessy et un doublé de Bergui. Bergui is on fire, Bergui qui marquera le dernier but nantais. Donc Nantes qui l'emporte 6-2. Et du coup, on va écouter Martin Lacroix.
Écoute, je serais satisfait de la performance de l'équipe. Autant, je dirais, offensivement que défensivement, parce qu'on gagne le match 6-2. On a donné un deuxième but qui était très, très tardif durant le match très tard dans le match. Le match, on pourrait dire qu'à ce moment-là, 6-1, à quelques minutes de la fin, je pense que le match était quand même plié. On a été un petit peu, on a joué un petit peu compliqué vers la fin, ce qui était normal. Ça peut arriver. Mais non, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'intensité, l'esprit du groupe au complet, du début à la fin du match. On sait qu'on est en mission, on l'a dit, on se bat pour une position dans le top 8. Puis il y a beaucoup d'équipes qui sont dans la même position que nous, dont Neuilly. Je pense que Neuilly avait 4 points d'avance sur nous. On se rapproche un point. On a un match à disputer de plus. Donc, on a un match en main. Et parlant de concurrent direct, ben, le prochain match, ça va être Marseille, qui est un autre concurrent direct. Ensuite, ça sera Dunkerque, qui est un autre concurrent direct.
Et justement, Marseille, c'était l'équipe rencontrée samedi. Et même scénario, victoire 7-3 des Corsaires. Grâce à Ochenessi, encore lui, Brian Sotro, Mathieu Gagnon, Brian Tenbrack, Mathieu Brenton et encore Fred Bergeron. Donc très très bonne victoire, les Nantais qui remontent à la 5e place, qui jouent surtout demain.
Marathon continue.
Avec la réception des Corsaires de Dunkerque et pour s'assurer une place en play-off à 6 journées de la fin, puisque leur adversaire direct se retrouverait dans tous les cas à 10 points et les Corsaires sont 9e. Ça va s'enchaîner, puisque les playoffs démarrent à partir du 12. Donc, ils auront une dernière journée, le 11 et le 12, avec des matchs contre Brest et Montpellier.
Et on est évidemment à fond derrière les hommes de Martin Lacroix pour ces playoffs, en espérant évidemment une montée en Ligue Magnus.
Exactement, en Ligue Magnus, on verra tout ça.
On l'espère.
On reste avec les sports de Brut, j'ai envie de dire. Victoire du Stade Nantais 57-6 face au Havre. Putain. La seule équipe qui avait battu les Nantais dans ce championnat. Un bon jeu de massacre. Les Nantais qui menaient 19-6 à la mi-temps et derrière ont enchaîné. Très bonne nouvelle. Donc Nantes est premier avec 67 points plus 11 points. 50 points d'avance sur le dernier. Non, oui, je ne sais plus. Donc, c'est match dimanche prochain, le 27. Ça sera au Re, à côté de Rennes.
On va monter.
Voilà, c'est quasiment sûr.
On monte en Fédérale 1, c'est ça ?
Ça sera la Fédérale 1, ouais.
C'est bien.
Oui, ça me paraît pas mal.
Troisième division.
Oui. Attends, il y a une Fédérale entre les deux, le groupe national. Mais bon, ça, on verra, ça sera pas mal. On en reparlera d'ici là. Un petit mot de basket pour vous dire que l'Hermine replonge un petit peu puisque c'est une défaite à Boulazac 90-82. Nantes est 15e au classement. 7 victoires, 11 défaites. Au programme, prochain match, c'est le 5 mars. Déplacement à Nancy. Chez les Déferlantes, encore une fois, une défaite à la Trocardière pour elles puisqu'elles ont été battues par Calais 62-67. Calais qui était juste derrière au classement. Donc Nantes est 9e avec 23 points. Prochain match, ça sera le 26 à Strasbourg. Donc le message est fortement envoyé qu'elles ne veulent pas continuer à jouer à la Trocardière. Il n'y avait pas de match des féminines du FC Nantes puisqu'elles joueront ce week-end dimanche à Orléans.
Eh bien, c'est parfait. Si on a été complet, on peut enchaîner sur le reste de l'actu, Maëlan. Bien sûr, c'est multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans Multizone, on revient sur la fin des JO, les dernières breloques qui ont été distribuées aux Français. Je pense bien entendu à Papadakis et Cizeron qui auront été champions olympiques. Attendu, ils auront tenu leur rang et repartent avec la plus belle des médailles.
Et puis en battant tous les records de points, magique, magique.
La surprise, c'est en slalom, on l'attendait sans l'attendre. Clément Noël, nouveau champion olympique dans la tradition des Kili et rappelle-moi, Jean-Pierre Vidal. Là,
exactement, c'est la magie de Noël. C'est une première manche assurée et puis une deuxième manche où il s'est libéré et il a totalement dominé. Meilleure deuxième manche, il nous met 8 dixièmes sur le deuxième. Enfin, c'était, il nous a vraiment épaté, Clément Noël, avec une vitesse sur, dans, il a eu un départ plutôt correct, puis derrière il a fait que accélérer sur toute la descente. C'était incroyable, un slalom parfait qui nous offre une belle médaille d'or.
Belle médaille, 3 pour l'Alpin, ce qui fait un bilan plutôt pas mal hein, en termes de médailles pour les Bleus sur les disciplines alpines. C'est la Suisse hein, qui aura éclaboussé les JO au niveau de l'Alpin.
Gisin, Gutberami, Odermatt, Bitfuz, et l'autre en. Je l'ai plus en descente.
Corinne Sutter,
voilà. Donc les Suisses ont encore été très très présents en Alpin.
Ouais, les Français, les dernières médailles sont venues encore une fois du biathlon et la très bonne nouvelle est arrivée d'une biathlète, Justine Brézat-Boucher,
énorme,
qui est championne olympique à la surprise générale.
Énorme.
Demain start, un des sports, un des coups où on pouvait mettre un petit pari dessus parce qu'elle est capable du pire comme du meilleur. Elle a commencé par le pire et après...
Deux fautes sur le premier couché. Et puis après, une sur le deuxième coucher. Et puis après, derrière, le 5 sur 5 sur le premier de mouille. Hein, une faute sur le dernier qui est anecdotique, tellement elle était impressionnante.
Elle était stratosphérique sur les skis.
Énorme. Elle a retrouvé finalement le ski de cette saison qu'elle n'avait pas sur le début des JO.
C'est incroyable. Et dans cette équipe de France de biathlon, la seule qui a les boules, hein, c'est Anaïs Bescon, hein, qui repart sans médaille, qui n'aura pas fait le relais mixte.
Sans mauvais jeu de mots.
Qui n'aura pas fait le relais mixte et qui espérait du relais dame.
On sentait qu'elle était extrêmement frustrée de ne pas avoir fait le relais mixte où elle avait gagné une médaille d'or au JO de Pyeongchang.
Seule fille de toute la délégation à repartir bredouille, hein, puisque tous les garçons ont une médaille. Hein.
Et en fait, quelque part, elle sait aussi que c'est ses derniers JO, elle ne sera pas là à Milan Cortina.
On a quand même quelques-unes des médailles olympiques.
Oui.
C'est pas comme si elle n'en avait pas et qu'elle courait derrière la dernière.
Ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre sa frustration absolue, et après que les filles se soient craquées en relais...
C'est pas de sa faute, parce qu'en plus, elle fait un premier relais qui est correct. Hein. Elle nous met dans la course au podium sans hésitation. Et derrière, ça, malheureusement, ça craque un peu avec Anaïs Chevalier complètement perdue sur les skis, sur le tir. Justine Brézat qui arrive pas à revenir, et parce que voilà, ils sont derrière et c'est compliqué après à ce moment-là de revenir.
Tu auras réussi ces trois premières journées des Jeux Olympiques et puis craquer les 10 derniers. Hein, Anaïs,
qui se pose même la question de continuer.
Oui, puisqu'elle a l'air d'avoir d'autres ambitions dans la vie. Et
elle a eu ses médailles olympiques, elle est contente, je pense.
Très bien.
Elle va finir la saison et puis après, il y aura une grosse réflexion. On se dit que pour les prochains Jeux Olympiques, on aura Justine Brézat et Julia Simon, logiquement. Et
Chevalier.
Ça sera Chloé Chevalier et Paula Beauté.
Ah Paula Beauté, elle va progresser, elle, tu vas voir.
Bon,
ça
le
va
bilan des Bleus est pas mal, hein, sauf, on l'a dit, en ski cross, où ils ont tous déçu.
Tous éliminés, hormis François Plas qui est éliminé en demi-finale, mais font le reste, c'est Bastien Midol éliminé en quart, et derrière, les deux autres étaient éliminés avec Jean-Frédéric Chapuis notamment. Qui a été éliminé en 8e, le dernier français, éliminé aussi en 8e, c'est très compliqué.
Truc Navarian.
C'est ça, Tchèque Navarian. Le Truman.
Bon, le bilan, donc on est presque
14
record,
médailles,
hein, 14,
5 d'or, 7 15, en argent, 2 en bronze.
Entre 15 à Sochi et à Pyeongchang. Si on veut faire mieux, il faut se mettre à la luge, au skeleton, au bob et au patinage de vitesse.
Et puis il faut avoir un petit peu de réussite quand
aussi.
Tu prends
Lafond, Cavé, 4e, on a Merlin Surgé qui aurait pu faire quelque chose.
Non, mais ça nous met pas 10 médailles de plus, si tu veux 10 médailles de plus, il faut aller vers les disciplines.
Ça
te
fait 2 médailles de plus et tu bats ton record.
En biathlon, tu peux en chercher quelques-unes de plus.
Faut se dire que la prochaine fois, on aura une équipe de. Même pas. Non. Pardon, j'allais dire qu'on allait avoir une équipe de hockey, mais non,
tu vas avoir une équipe de baseball et de softball, de water polo, on n'a jamais vu les bleus.
Skateboard.
Il va falloir s'y mettre.
C'est ça.
De tech, mais.
Bon, c'était essayé, ça marchera pas.
Bon, allez, on passe au top 14.
C'est ça, une nouvelle journée de top 14. C'était la trêve au tournoi des destinations. Et donc, on a assisté à la première défaite des Bordelais chez eux. Une défaite face au Racing Men. 16-13, les Bordelais qui même malgré cette défaite conservent leur première place. Ils se sont fait prendre cette défaite grâce à Vola Vola sur une pénalité à la 80e. Du coup, de l'autre côté, on a Toulouse qui continue à avoir du mal sans ses internationaux. Une défaite 27-22 en terre paloise, malgré deux cartons rouges pour les Palois à la 33e, Manou et Vatoubois à la 51e. Ils perdent quand même, donc c'est vraiment une défaite. C'est très compliqué pour le Stade toulousain. Actuellement, les Toulonnais qui arrivent à se ressaisir avec une victoire 29-18.
Deuxième victoire de rang après avoir battu le leader Bordeaux-Beuglé la semaine dernière.
Et le carton du week-end, c'est le Stade français qui va s'imposer à domicile 65-19 face à Biarritz.
Un match nul entre Brive et Montpellier, 16 partout. Et moi, je vais vous parler du très beau match que j'ai vu donc samedi soir. C'était La Rochelle-Clermont. Victoire 31-27 des Rochelais, un scénario de fou, 10-10 à la mi-temps, et puis La Rochelle va faire ce qu'il faut pour avoir le break, pour le bonus, et ils vont rater les 5 dernières minutes et encaisser 2 essais.
Rosière et Barak.
Exactement, ce qui donne un point à Clermont, et ce qui fera qu'au classement, c'est assez resserré entre Paris et La Rochelle. Donc du coup, si on donne le classement...
Au classement, Bordeaux est toujours premier, avec 5 points d'avance sur Montpellier avec un match en retard. Lyon est 3e à 49 points, égalité avec Castres 4e, les Racing Men 5e, Toulouse qui se descend à la 6e place à 44 points, le Stade français, La Rochelle en embuscade à 41 points, Pau, Clermont et Brive un peu plus loin avec 37, 35 et 33 points respectivement. Toulon qui revient
sort de
la zone rouge avec 31 points et 12e. Perpignan 13e avec 29 points. Biarritz décroché 14e à 24 points.
Alors moi j'ai une petite question pour Mathieu qui suit un petit peu Toulon. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée la saison prochaine comme directeur du rugby de Pierre Mignoni qui va accompagner Franck Azéma?
Ouais, on recycle les anciens Toulonnais. Ça avait bien marché avec ceux qui avaient participé, on va dire, à la grande épopée toulonnaise. Donc, pourquoi pas. Mignoni, ouais.
Est-ce que ça pourrait compliquer le poste de Franck Azéma?
Sans doute,
un Mignoni, on le connaît, c'est une grande gueule.
Moi, je suis partant, puisqu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Toulon est en grande difficulté, ça ne marche pas.
Pour l'instant, c'est Toulon, ça se fait, c'est tout court pour l'instant.
Tennis.
Attends, un petit mot de Pro D2, juste avant, pour dire la victoire du RCV, 22-18, face à Montauban. Et qu'au classement, du coup, je vous donne ça dans une seconde. Van est 10e.
Tennis, ATP Tour, ça jouait sur l'Hexagone cette semaine.
C'était à Marseille et on a eu une belle finale entre Andrei Rublev, le Russe, et Félix Auger-Aliassime, récent vainqueur du tournoi de Rotterdam. Une victoire en finale de Rublev, 7-5, 7-6. Belle victoire pour Andrei Rublev qui remporte son premier titre de la saison. Bonzi qui notamment était en demi-finale, le Français face à Rublev, il perd en 3-7, donc c'est dommage. Auger-Aliassime qui a annoncé qu'il ne participerait pas au Master 1000 de Doha, donc le Canadien.
Doha, Master 1000 désormais.
Exactement. Oui, c'est un Master 1000. C'est maintenant.
Nouveau.
Exactement. De Doha, qu'est-ce que je raconte? C'était Acapulco. C'est Dubaï, c'est Dubaï, excusez-moi pour les...
C'était au bord de la mer, on n'a pas regardé
c'est Dubaï,
laquelle,
excusez-moi. C'est Dubaï, l'ATP 500, excusez-moi pour les messieurs en ATP, il y a Acapulco aussi qui commence. C'était Doha qui avait la finale entre Bautista Agut et Basile Ejvili, remportée par l'Espagnol, 6-3, 6-4.
Très bien.
La rentrée des cadors, Nadal, Djokovic sur Acapulco, notamment pour Nadal, et sur dur avec notamment Medvedev et Djokovic qui seront eux à Dubaï.
PGA Tour, un mot de golf.
Sur le tournoi qui s'appelle le The Genesis Invitational.
Ouais, un tournoi à champ réduit où Paul Barjon ne participait pas.
Comme par hasard.
L'actuel 131e de la FedEx Cup. Et victoire pour le Chilien, Joachim Niemann.
Exactement, qui s'impose à moins 19. Donc
Cameron Young et Colin Morikawa.
Exactement.
Donc ça continue.
Premier européen, Victor Hovland,
4e. On sera en Floride. Puis du vélo.
Exactement, les courses continuent. Notamment, on avait du côté de l'Hexagone, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec une nouvelle victoire pour Nairo Quintana qui s'impose sur ce nouveau tour. Donc deuxième victoire au sur un classement général après le Tour de la Provence. Il s'impose le Tour du Var, exactement, avec une, notamment une démonstration sur la troisième étape, l'étape qui arrivait du coup au sommet. Hein. On était sur Villefranche-sur-Mer jusqu'à Blozac, une étape où il a dominé avec une 21 d'avance, notamment sur Guillaume Martin, deuxième, et Thibaut Pinot, troisième, une 30. Donc il remporte facilement ce tour. On était aussi en Portugal avec le Tour de l'Algarve, avec une victoire de Remco Evenepoel qui a su sublimer tout son talent sur le contre-la-montre de la quatrième étape, où il a mis quand même, on parle de 58 secondes sur Stephen Kung, récent champion d'Europe de contre-la-montre, et en plus sur le podium des championnats du monde. Donc c'est pour dire ce que Remco Evenepoel a mis à ses adversaires. Et du coup, il s'impose au classement général. À noter que la Quick-Step complète avec deux victoires de Fabio Jakobsen sur le sprint. Et le dernier tour, c'était le Tour d'Andalousie avec la victoire de Wout Poels, le coureur néerlandais de la Bahrain Victory, qui s'impose devant Carlos Rodriguez de la Total Energy et Miguel Angel Lopez. Les épreuves World Tour vont commencer avec notamment le Tour des Émirats Arabes Unis à partir d'aujourd'hui. La première victoire d'étape simple, c'était pour Marc Cavendish, encore un Quick-Step incroyable, hein, Cavendish le revenant.
Qui doivent démarrer, on n'a pas un Kurn Bruxelles Kurn week-end prochain.
C'est le Het Nieuwsblad cette semaine.
Ah oui.
Avec Kurn Bruxelles Kurn aussi. Donc là, on a.
Ça y est, les premières.
C'est pro. Donc c'est World Tour, c'est le Het Nieuwsblad qui
les premières classiques arrivent.
Et comment ne pas parler de la victoire de Dujardin dans la deuxième étape du Tour du Rwanda.
Exactement, avec Géniès qui s'imposait sur la première étape. Donc c'est les Français qui sont au taquet.
Coureur de B-Concept, c'est ça?
Sûrement.
C'est Dujardin, Total Energy, c'est un coureur.
Voilà, okay.
Un jeune de la Total Energy, Géniès, qui lui, chez Arkea, je crois.
Eh bien, il est 20h, on va laisser la place à nos potes de Passage en Force pour parler de NBA. Nous, on se retrouve lundi prochain. À bientôt. Ciao, ciao.